écoutez Radio Canu et on vient d'écouter The Black Keys. Juste avant, c'était Camille avec Il Over You et encore avant, c'était The Cave Singers.
Le journal du jour, le journal, le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h, passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et de quoi on va parler ce soir ?
Eh bien ce soir, on va avoir un petit point sur l'A69 et la ZAD de l'A69 qui a été expulsée. Et puis suite à
une chronique de Delabouze. Et ensuite on parlera d'une en particulier d'une frappe israélienne qui a eu lieu à Gaza.
Puis on aura un petit, il faut que ça se sache, l'hospitalité à la française.
Et oui, c'est exactement. Et ensuite on finira par une info un peu cocasse sur une députée du RN qui tape dans la caisse.
Emmanuel Macron réaffirme que la France reste résolument aux côtés de l'Ukraine et de son peuple. Il écrit ça sur XX Twitter avant un sommet international qui est censé parler de tout ça. Alors c'est bien joli, mais qui lui demande son avis ? Depuis les dernières législatives, ce qu'il dit ou ce qu'il pense, a priori ça ne devrait plus avoir une grande importance. En cette rentrée 2024, il a à peu près autant d'utilité que la reine d'Angleterre. Alors il peut bien dire des trucs sentimentaux, tout ça. Mais si, grâce à lui d'ailleurs, le prochain gouvernement décide que la France se tient plutôt aux côtés de la Russie, c'est toujours pas lui, reine d'Angleterre, qui pourra y faire quoi que ce soit.
Et du coup, on va faire un tour du côté de la 69. Et en tout cas, c'est pendant la manif de samedi dernier où un militant a poussé un coup de gueule contre Carole Delga suite à l'expulsion de la ZAD de la 69. Et c'est une interview collab avec Livo qui était en déplacement sur la manif. On rappelle rapidement que pendant que certains et certaines d'entre nous bronzaient tranquillement au soleil ou préparaient la rentrée, la préfecture du Tarn a décidé décidé de lancer des opérations d'expulsion de la ZAD contre le projet autoroutier de la 69 ainsi qu'à l'abattage de plusieurs arbres. Durant l'opération, au moins 3 personnes ont fait d'importantes chutes, dont une de 8 mètres et une autre de 7 mètres. Les personnes s'en sont certes sorties, mais avec de lourdes séquelles, dont une avec plusieurs plaques vissées dans le dos pour maintenir sa colonne vertébrale. Voilà, on écoute ce qu'il a à nous raconter.
Samedi 7 septembre, manif contre le coup de force de Macron. Il y a la fanfare, il y a des gens avec des pancartes, et là il y a ce gars avec cette pancarte, Carole Delga, merde.
Alors Carole Delga, c'est la présidente de la région Occitanie, et donc Carole Delga, merda, pourquoi ? Parce qu'en ce moment, depuis le 1er septembre, elle participe aux expulsions qui sont en cours sur la ZAD de la Crémarbre et sur les autres territoires qui sont occupés en opposition à la construction de l'autoroute A69. C'est une lutte qui est invisibilisée par les grands médias, alors que ce qui se passe là-bas, c'est tous les jours un harcèlement policier. Tous les jours, il y a la gendarmerie qui arrive pour essayer de déloger les personnes qui occupent les arbres. Tous les arbres qui ne sont pas occupés, ils sont détruits. Ce qui fait tenir les derniers arbres, c'est la mise en danger volontaire des militantes et militants qui sont obligés de se décrocher et de se mettre en danger pour que la police n'intervienne pas. Mais on voit que des fois ça suffit pas parce que la police arrive avec des nacelles, ce qui occasionne des chutes. Il me semble que c'était il y a 2 jours où il y a encore 2 personnes qui sont tombées de à peu près 8 mètres de haut et qui ont été blessées. Et la semaine dernière également, il y a eu des chutes avec des vertèbres cassées et des militantes et militants qui sont à l'hôpital. Tout ça pour s'opposer à un projet qui, on le rappelle, l'autoroute A69, c'est quoi ? C'est une autoroute entre Toulouse et Castres qui va coûter 17 euros aller-retour, alors qu'il y a une nationale qui fonctionne très bien. Et aussi, pour montrer à quel point ils sont fous, ils vont aussi construire une dizaine de ronds-points sur la nationale pour ralentir encore plus le trafic et obliger les gens à payer 17 euros pour faire l'aller-retour entre Toulouse et Castres. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais pointer aujourd'hui Carole Delga comme co-responsable de ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est un peu loin de Lyon, mais c'est une personnalité du PS. Et donc comme aujourd'hui c'est une manifestation organisée par le nouveau groupe populaire, je voulais pointer les incohérences des personnalités qui composent la gauche.
Canu Info.
Merci à vous.
Radio Canu.
Et merci de documenter ce qu'on fait. C'est cool de nous donner la voix.
102.2.
Alors, la préfecture déclare les opérations de déboisement terminées, malgré le fait qu'il reste un militant perché dans un arbre. Elle ne précise pas cependant si elle a fini de briser les corps des militants et militantes. Pour les militants et militantes et collectifs sur place, la lutte n'est pas finie, puisque sur le terrain judiciaire, les collectifs comptent contester la légalité des coupes qui ont été faites, car une partie d'entre elles ne respecte pas certains arrêtés préfectoraux. On rappelle un rapport de l'ONU qui a été publié en février 2024 qui s'inquiétait d'une nette augmentation, je les cite, de la répression et de la criminalisation des actions pacifiques de désobéissance civile en Europe. Le rapporteur français Michel Forst parle de menaces majeures. Je le cite encore, la répression que subissent actuellement en Europe les militants écologistes qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour les démocraties et les droits humains. Il s'était d'ailleurs rendu sur l'occupation du chantier de la 69 après plusieurs plaintes de violences policières. Le rapport pointe du doigt une répression disproportionnée de la part des États comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne ou la Pologne. Outre le fait que les politiques criminalisent dans les discours les militants écolos d'éco-terroristes pour Darmanin, comparent entre les actions spectaculaires des écolos et le feu groupe Fraction Armée Rouge pour l'Allemagne, le rapport souligne également que les médias jouent un rôle dans la diffusion de l'idée que le mouvement écolo soit traité comme des criminels. Bien sûr, la répression judiciaire et policière est également pointée du doigt. Au Danemark, les extrémistes climatiques sont inscrits sur la liste des menaces terroristes. En Espagne, Extinction Rebellion est considérée comme une organisation relevant du terrorisme international. En Italie, une loi de janvier appelée écovandalisme accorde des peines jusqu'à 5 ans et 10 000 euros d'amende pour des actes du genre balancer un petit peu de ketchup sur une œuvre d'art qui est protégée par un verre. En Angleterre, les conservateurs ont inscrit comme infraction pénale le fait de s'attacher à une autre personne ou à un bâtiment. Côté police, il dénonce également les moyens d'enquête et de surveillance habituellement utilisés pour la grande criminalité. Écoute, filature, surveillance avec des outils de pointe. En France, c'est pas très loin de Lyon, c'est enfin en tout cas à Dijon. On a vu l'exemple il n'y a pas très longtemps dans le quartier des Lentillères, qui est une espèce de quartier occupé où on plante un peu des trucs et on vit un peu. Voilà. Et il y avait eu un peu des. Je sais pas si vous vous souvenez, un peu des caméras et des appareils photo qui avait été trouvé hyper loin, hyper bien caché pour surveiller les allées et venues.
Ouais, ouais, des dispositifs d'écoute dignes d'espions
ouais.
d'il y a 50 ans, quoi.
Ou par exemple, c'est régulier que sur les ZAD, on trouve des espèces de fausses pierres qui cachent en fait des micros et des caméras. Bref. Voilà. Donc pour Michel Frost, il conclut, au lieu de criminaliser les États, feraient mieux de mettre leur énergie en s'attaquant aux causes profondes des mobilisations. Et pourquoi pas, par exemple, commencer doucement en mettant en application les accords de Paris. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop vénère dans ses demandes non plus.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Oh bah pas de générique. Bon bah oui, pas de jingle, de toute manière ça va être une chronique de merde.
Canu Info.
Ah bah voilà, merci. Et bah voilà, ça part bien, exactement comme je le souhaitais. Une chronique de merde, j'ai rien foutu parce qu'il pleuvait et que comme ça je ferai forcément mieux la prochaine fois.
T'es en vacances quoi.
Ouais, je suis en vacances moi.
Ouais. Non t'es bon, plus en vacances.
Fais un peu bien gaffe à ta gueule toi. Alors, bonsoir. Bon, Canu Info du merde.
Bonne ambiance dans le studio.
Putain, la reprise est difficile.
Tu vois, c'est pas fini.
Comme un lundi.
Au Canu Info du mercredi, on n'est pas que là pour vous casser le moral. Alors ouais, bien sûr, dans l'équipe, il y a ceux qui parlent du nucléaire, qui nous défoncent la gueule et encore on n'a pas vu le pire. Il y a ceux qui nous parlent du génocide rwandais, ceux qui nous parlent des parcours de souffrance des migrants face au racisme et à la violence toujours croissante. Et toute l'équipe qui parle du racisme d'État bien de chez nous et des crimes de la police toujours en augmentation. Encore le week-end dernier, on commémorait à Lyon la mort du jeune Idir, décédé au Mitard il y a 4 ans, ce qui a été l'occasion de parler de l'état désastreux des prisons. La France détient le record d'Europe du nombre de morts en détention. Mais ça, c'est le reste de l'équipe qui évoque ce genre de sujet. Moi, je suis là pour les gaudrioles, le fun et la rigolade. Eh oui, moi, c'est la radio Champagne et Cotillon. Alors préparez-vous à bien vous fendre la gueule. Allez, j'y vais. Aujourd'hui, le nombre de conflits armés dans le monde n'a jamais été aussi haut que depuis la Deuxième Guerre mondiale. On compte aujourd'hui plus de 100 conflits armés différents. Si on entend beaucoup parler de l'Ukraine et de la Palestine, on évoque beaucoup moins l'Afrique qui concentre actuellement le plus grand nombre de guerres et de massacres de civils. J'en veux pour preuve la guerre en Éthiopie, dont on ne parle jamais. Même si elle a baissé en intensité, elle continue. Et le dernier bilan, qui date de 2022, atteignait déjà les 600 000 morts. Et voilà.
Merci.
On est bon pour la bonne dose de fun. Mais attention, pas la peine de désespérer pour autant. Tournons-nous vers la plus belle, la plus grande des démocraties, sûrement à même de nous sortir de ce marasme. Hier, c'était le grand débat pour la course à la présidence aux États-Unis, Kamala Harris contre Trump. Et ce dernier, peut-être futur dirigeant de la plus grande puissance mondiale, nous a expliqué pourquoi il était urgent de stopper l'immigration aux États-Unis. Alors la principale raison pour lui, c'est l'importance de protéger les animaux de compagnie des vrais Américains. En effet, selon lui, les immigrés haïtiens auraient pour caractéristique de manger les chats et les chiens. Contrairement aux États-nations qu'il crée, le racisme, lui, n'a décidément pas de frontières. Ça me rappelle le discours de cette vieille Algérienne depuis que les Chinois sont arrivés en Algérie. Mais ils sont où, les chats? Bon, allez. Heureusement qu'en France, il nous reste la vraie démocratie. On nous balance un Premier ministre issu du parti qui a fait 5% aux élections. Bon, ok. Mais au moins, il aurait pu prendre une femme. Il y en a quand même une ou deux à droite. Dommage, on aurait pu avoir Nadine Morano. Et là, on aurait rigolé. Allez, et pour finir, petite dédicace à François Fillon, qui, vraiment le pauvre, s'en sort pas dans l'affaire de l'emploi fictif de sa femme Pénélope. Condamné par tous les tribunaux, il sort de sa manche une dernière carte. Avant de vous dire laquelle, je vais vous rappeler ce qu'il martelait en 2016. Il parlait de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, en s'indignant du fait qu'elle intervenait sur des sujets fondamentaux pour la société française. Il proposait donc que la France se passe de la CEDH. Ce vendredi 30 août, François Fillon déclarait: saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de l'emploi fictif de sa femme. Bon, alors voilà, comme j'ai dit, c'est une chronique de merde. D'habitude, je finis quand même par un truc pour dire mais il y a quand même des résistances qui ont la classe. Alors là, j'ai rien. Donc choisissez, il y a quand même plein de gens qui résistent en France et partout dans le monde. Choisissez la vôtre et reprenez le moral.
Canu Info.
Eh bien, si vous avez repris le moral, sachez qu'après l'info qui suit, c'est fini.
Oui, en même temps, comment dire, si vous voulez, vous pouvez prendre des chroniques de il y a quelques mois et puis vous les réécouter, enfin des infos d'il y a quelques mois et puis vous les réécouter, parce que vous allez voir, c'est pas très très neuf. La zone humanitaire de Al-Mawazi à Khan Younes, dans la bande de Gaza, a été frappée par l'armée israélienne dans la nuit de lundi à mardi dernier, provoquant la mort de 40 personnes et faisant 60 blessés, selon la défense civile gazaoui. Al-Mawazi avait été désigné comme zone de sécurité par l'armée israélienne au début de la guerre, et des dizaines de milliers de Palestiniennes et de Palestiniens déplacés y avaient trouvé refuge. C'est pourtant cette zone humanitaire qui a été frappée dans la nuit d'avant-hier à hier. Donc 40 morts, 60 blessés, selon un bilan provisoire de la défense civile à Gaza, parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de fouiller sous les décombres. Les frappes ont formé de grands cratères dans la zone humanitaire. De son côté, et comme chaque fois que ces bombes touchent des infrastructures civiles, l'armée israélienne a affirmé avoir frappé d'importants terroristes du Hamas qui opéraient depuis un centre de commandement et de contrôle au sein de la zone humanitaire de Khan Younes. Et donc, comme d'hab, quand les Israéliens tuent des civils, c'est uniquement la faute du Hamas. Les organisations terroristes, alors c'est toujours l'armée israélienne qui parle, les organisations terroristes de la bande de Gaza continuent d'abuser systématiquement des infrastructures civiles et humanitaires, y compris la zone humanitaire désignée, pour mener des activités terroristes contre l'État d'Israël et les troupes de Tsahal. Le Hamas affirme de son côté qu'il n'avait aucun combattant dans cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement systématique qu'on se demande pourquoi est-ce qu'Israël continue à indiquer des zones humanitaires qui sont censées être sûres pour les civils, puisque de toute façon, elle va les bombarder après, puisque d'après elle, c'est tellement systématique que le Hamas s'y mette pour les attaquer. L'armée israélienne a également ordonné lundi l'évacuation de plusieurs secteurs du nord-ouest de la bande de Gaza, où elle avait annoncé en janvier dernier qu'elle avait achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas. Mais bon, le Hamas est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a trois Palestiniens quelque part, il y en a certainement un qui est du Hamas, et l'armée israélienne éprouve le besoin d'y balancer des machins qui explosent. 40 988 Palestiniens sont morts depuis le début de l'offensive israélienne, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon les Nations Unies. Les négociations en vue d'un cessez-le-feu conduites sous la houlette des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar s'enlisent, alors que, dans le même temps, Israël a intensifié ses opérations aussi en Cisjordanie occupée. En Cisjordanie, c'est ça en fait. Alors effectivement, Israël, l'ONU s'est récemment alarmé du fait qu'en Cisjordanie ça va de plus en plus mal, et l'armée d'un côté, les colons de l'autre sont de plus en plus actifs en Cisjordanie pour aller désinguer du Palestinien. On dirait vraiment qu'Israël a décidé que cette année 2024 serait celle de la solution finale du problème palestinien. Le Hamas ne signe. Alors ça c'est ce que nous résume le fondateur et directeur du Centre de recherche et d'information Israël-Palestine, qui dit ça dans l'humain, un gars qui s'appelle Gershom Baskin, qui dit: le Hamas ne signera pas un accord qui ne met pas fin à la guerre, et Netanyahou ne l'acceptera pas si cet accord met fin à la guerre. Tous les autres points sont des détails: prisonniers, redéploiement, couloir de Philadelphie, tout ça. Voilà.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a décidé de limiter par terre.
Alors, eh bien, on va faire un petit bilan des JO, mais du point de vue des centres de rétention. La CIMAD pointe du doigt une forte augmentation du nombre d'irrégularités dans les centres de rétention administrative, et principalement celui de Mélie-Lamenau, le deuxième plus grand d'Île-de-France. Donc, peut-être bien le deuxième plus grand de France, si on compte pas celui qui doit y avoir à Mayotte, qui doit être le plus grand. Bref. En tout cas, c'était le principal concerné, puisque les JO se déroulaient quasiment exclusivement à Paris. Une très nette augmentation de de recours à l'enfermement a eu lieu ces deux derniers mois, alors que d'habitude chaque unité accueille en moyenne 90 personnes durant la période des JO. On était à presque à saturation, avec plus de 110 personnes enfermées sur un maximum de 120. Alors certes, on n'était pas en surpopulation comme dans les prisons, mais on était quand même pas loin du taux maximum. Et en été, les conditions sont particulièrement difficiles, avec les fortes chaleurs, voire les canicules, et les accès aux douches et à l'eau n'étant pas à volonté. C'était assez compliqué pour plusieurs personnes. Outre quelques cas particuliers du genre, qui peut presque prêter à sourire, du genre un Australien qui se fait expulser car il a tenté de s'introduire sur la piste du Stade de France lors de la finale des 100 mètres. Bon, on lui notifie une OQTF, il a 48 heures pour contester, comme pour toute OQTF quasiment, et se fait placer dans un avion en à peine quelques heures sans avoir le temps de faire son recours. La direction du centre de rétention administrative a créé un quartier interpellé des JO, qu'elle a placé dans le quartier des femmes, que la direction a préalablement vidé. Bon, et c'est là que ça craint sérieusement, parce que pour la CIMAD n'a été informée de la création que de cet espace JO que plusieurs semaines après qu'il ait eu lieu, et ne sait donc pas où sont passées toutes les personnes qui ont été, toutes les femmes qui ont été déplacées du centre. Certaines ont été assignées à résidence, mais dans leur immense majorité, elles ont été enfermées et transférées dans d'autres CRA pour celles et ceux qui ont réussi à suivre. Et parfois, par exemple, ça pouvait être à Metz, en tout cas dans plusieurs, c'était à plus de 300 km de Paris, les privant de leur famille ou d'éventuels soutiens ou avocats, enfin bref, compliquant clairement leur accès aux droits. Comme le pointe l'article d'Info Migrant, le centre de rétention de Mélie-Lamenau est régulièrement épinglé pour ses irrégularités. La direction est plutôt mauvaise perdante, car dans un rapport coécrit par la CIMAD, France Terre d'Asile et d'autres associations, le rapport pointe du doigt des irrégularités, notamment en matière d'expulsion illégale, méthode reconnue par le ministère de l'Intérieur, et ce à quoi la direction a dit allez, ciao, retrait des équipes de la CIMAD en février 2023, suite aux révélations du rapport. Le centre de rétention, la rétention de ressortissants pour lesquels il n'existe pas de possibilité d'éloignement car le renvoi dans les pays d'origine est impossible ou trop dangereux, c'est le cas des pays en guerre, etc. Puis en bref, plusieurs autres exemples. En 2023, par exemple, les préfectures n'ont trouvé aucune difficulté à contacter les autorités consulaires de pays en situation de conflit de haute intensité ou avec lesquels la France a suspendu ses relations diplomatiques dans le but d'expulser ses ressortissants vers des zones à risque mortel, pointe le rapport. Il y a eu aussi de nouveaux des Haïtiens, même si l'aéroport a effectivement réouvert il y a peu. La situation insurrectionnelle reste très dangereuse dans le pays. Il y a eu également deux personnes soudanaises, un homme du Sud-Soudan, deux Syriens et deux personnes qui viennent d'Afghanistan, ainsi que deux personnes qui viennent de Gaza. Pour l'avocat de ces derniers, il rappelle que si l'éloignement est impossible, parce que du coup là dans les derniers cas, a priori les personnes ne se sont pas fait expulser, parce que c'était vraiment, vraiment pas possible, il rappelle que si l'éloignement est impossible, la rétention est donc complètement injustifiée.
Ça sache.
Et en très rapide, Sea-Watch accuse l'Italie d'être responsable du dernier naufrage de Lampedusa. Vous en avez sûrement entendu parler, parce que pour une fois, ça en a un peu parlé presque dans les matinales. Au moins 20 personnes sont mortes au large de Lampedusa le 1er septembre, et pour Sea-Watch, l'Italie est responsable. L'ONG affirme dans un communiqué que le naufrage avait été repéré par son avion de reconnaissance, et elle accuse Rome de négligence. À l'arrivée des secours, le canot a été était à la dérive et à moitié submergé d'après le communiqué des gardes-côtes italiens, et avec à son bord 7 personnes. Bref, sur le point de se noyer. Ces derniers ont diffusé les images de leurs interventions. Sauf que Sea-Watch remarque de fortes similitudes entre les images qui ont été diffusées par les gardes-côtes liens et celles d'une embarcation qu'elle a signalée deux jours plus tôt. Et effectivement, on peut voir sur leur compte Twitter, ils montrent les deux images, donc celle de l'embarcation qu'ils avaient repérée deux jours plus tôt, qui était en difficulté, et celle de les images des gardes-côtes italiens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être très fort en comparaison pour s'imaginer que il y a de grandes chances que ce soit les mêmes. L'ONG avait alerté bien sûr les gardes-côtes libyens et italiens, pardon, et toute la chaîne habituelle d'alerte pour que les secours arrivent le plus vite possible, soulignant l'urgence de la situation. Mais les sauveteurs italiens ne se sont déplacés que deux jours plus tard, entraînant donc ce naufrage. Donc voilà, donc le rapport de Sea-Watch est, enfin en tout cas le communiqué est beaucoup plus prudent que ce que je dis pour éviter de trop d'ennuis judiciaires, mais c'est assez clair que l'Italie a mis deux jours à intervenir, ce qui lui arrive quand même assez régulièrement, jouant la montre et espérant effectivement que les bateaux se noient, ce qui a été le cas, et 21 personnes sont mortes, dont 3 mineurs, et 7 personnes ont pu être secourues.
Il faut que ça sache.
Bon, bah maintenant au moins on va rigoler un petit peu. On va rigoler un petit peu parce qu'on va parler de Christine Angrand. Christine Angrand a été réélue cet été députée de la 6e circonscription du Pas-de-Calais dès le premier tour des dernières législatives sous l'étiquette du Rassemblement National. Mais c'est au cours de son premier mandat qu'elle a mené grand train aux frais de la princesse, selon un article de Mediapart. Alors voilà, Christine Angrand, en tant que députée, a une CB spéciale Assemblée nationale. Et ma foi, elle en a fait grand usage. Alors visiblement, c'est souvent comme ça avec les élus fachos, même avec celles et ceux qui n'arrivent pas à se faire élire, d'ailleurs qui sont juste candidats, candidates, au siège du parti. On leur répète 4 fois par jour. Faites pas les cons. On évite les remarques racistes, surtout sur Internet, parce que ça reste. On planque sa collection d'objets du Troisième Reich à la cave. On n'en laisse pas sortir de photos. Et aussi, s'il vous plaît, on ne tape pas dans la caisse. Mais pour des gens qui sont souvent plutôt des couillons complexés, le fait d'être devant des micros, devant des caméras, ou d'avoir dans sa poche une CB qui permet de dépenser des sous qui ne sont pas les vôtres, c'est trop tentant. Quant à réaliser que des achats avec une CB, on peut les tracer, et que peut-être même un jour, une ou un journaliste de Mediapart finira par s'y intéresser, ça c'est bien trop intello pour des représentantes du vrai peuple français. Bon, normalement, la CB, c'est pour les frais inhérents à la fonction de député, et uniquement pour ces frais-là. Pour Christine Angrand, les sous des impôts des vrais Français qu'elle a dépensés, on peut se poser la question de dans quelle mesure ils étaient vraiment toujours inhérents à sa fonction. Mediapart a relevé par exemple que dans les notes de frais de l'élu RN, il y avait une dépense mensuelle de 39€ pour un abonnement à un site de rencontre. Mais l'épluchage des notes de frais a aussi révélé qu'elle dilapidait de l'argent public pour, ma foi, faire garder ses chiens pendant qu'elle n'était pas là. Et puis, tiens, elle a réglé une facture de 5 000€ de frais d'obsèques avec son enveloppe parlementaire. Alors, on ne sait pas les obsèques de qui par rapport à elle, mais en tout cas, c'est quand même bien vos impôts qui ont payé ça. Auprès de nos confrères, c'est-à-dire, oui, pardon, c'est parce que j'ai copié-collé un article, mais auprès de Mediapart, Christine Angrand n'a pas nié avoir payé une partie de ses dépenses personnelles avec l'argent du contribuable. En revanche, elle plaide la confusion entre sa carte bancaire professionnelle et sa carte personnelle. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la députée parle d'erreur, de maladresse de début de mandat. Alors, ce qui est toujours bon aussi comme défense, parce que franchement, si vous étiez par exemple démocrate, si vous croyez à tout ce système, est-ce que vous auriez vraiment envie de confier les clés du pays à une dame qui n'est pas capable de faire la différence entre sa CB personnelle et sa CB de députée ? Eh bien voilà, pas sûr.
C'était la conclusion.
Comme du coup, après il y a le générique, je vous remets pas un générique pour qu'on fasse pas générique sur générique.
Ouais.
Enfin, moi, vous vouliez un générique si vous aimez les génériques.
Et non, mais c'est la fin du Canu Info.
C'est la fin du Canu Info.
Petite rentrée, 30 minutes, nouveau format.
C'est pour partager notre créneau avec une autre équipe, si quelqu'un...
voilà, moi j'ai feuilleté l'agenda, c'est une rentrée tranquille pour tout le monde. Il se passe pas non plus des tonnes de trucs de partout. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un peu plus d'infos.
D'ici à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Allez.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.